Dans la mesure où dans ce pays, à un moment charnière politique de son histoire, il est bon de se référer à un passé qui a été plus ou moins glorieux, d'une certaine manière, en tous les cas, loué par les Birmans, comme dans d'autres pays, eh bien, bénéficier de cet héritage historique et d'essayer de le reprojeter, non plus dans le passé, mais dans l'avenir du pays, à un moment, donc, une fois encore, clé de l'histoire de la Birmanie, post-junte militaire, avec le premier gouvernement démocratique en place depuis un demi-siècle, avec des objectifs de réconciliation nationale et de paix, il était bon d'essayer de donner une posture historique, symbolique forte à l'événement. C'est la raison pour laquelle Madame Aung San Suu Kyi, qui est la de facto, la véritable chef d'État du pays, reprend l'héritage et le flambeau de son père, le général Aung San, qui lui avait donné le nom 70 ans plus tôt, donc à cette première exercice de conférence, voulant donner des contours fédéraux et de paix unifiée à la Birmanie, qui en avait déjà besoin au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Quels seront les points forts à aborder lors de cette nouvelle conférence du 21e siècle cette fois-ci?
Il faut peut-être essayer de voir essentiellement la dimension symbolique de l'événement et non pas en définitive ce qui risque d'en ressortir à l'issue des 5 jours de négociations. La plupart des observateurs, la plupart des groupes ethniques et la plupart des interlocuteurs politiques que j'ai pu interroger ces derniers jours ou ces dernières semaines sur le sujet ne se font pas énormément d'illusions. Rien ne sera de très substantiellement mis en œuvre à l'issue ou durant cette conférence, puisqu'il s'agit avant tout de jeter les bases d'un processus qu'on relance avec un nouveau gouvernement. Madame Aung San Suu Kyi et le gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie sont en place depuis quelques mois, depuis 4 à 5 mois tout au plus. Ils reprennent le flambeau sur un dossier difficile, celui de la paix et de la réconciliation nationale, donc laissé en l'état par l'administration sortante. Il s'agit d'impulser, de relancer une dynamique forte quelques mois après cette entrée en fonction et surtout essayer de mettre une première pierre que dans un édifice qui est compliqué, qui mêle plusieurs dizaines de parties. On a des groupes ethniques armés, ils sont une petite vingtaine. On a l'armée qui a un objectif peut-être un petit peu distinct de celui des groupes ethniques armés. Le gouvernement civil qui n'est pas toujours très à l'aise encore dans ses relations avec l'armée, qui demeure une institution extrêmement puissante et influente autour d'un événement qui est le premier événement véritablement dit charismatique, si l'on peut le dire, ou emblématique de cette nouvelle administration, on est plus dans la projection que dans la réalisation. Les uns et les autres ne s'attendent pas à ce qu'il y ait des déclarations ou des choses politiquement solides, dans la mesure où c'est à l'issue de cette conférence, dans 6 mois, que normalement, ce que l'on appelle le dialogue politique sera véritablement mis sur le papier, autour de la table, et animera les débats certainement fiévrés entre les groupes ethniques armés qui appartiennent à toutes ces minorités birmanes qui représentent à peu près le tiers de la population, face au gouvernement civil, qui n'a pas tous les pouvoirs, et face à l'armée qui, de temps à autre, sur le sujet comme sur d'autres, a une vision un petit peu parfois différente des choses.
Vous l'avez mentionné, de nombreux groupes armés seront représentés. Ils se font encore aujourd'hui la guerre sur le terrain. Comment devra être envisagée la médiation pour pouvoir parvenir à quelque chose de constructif?
En Birmanie, aujourd'hui, on estime qu'il y a une vingtaine, 20-21 groupes ethniques armés, donc qui ont une direction politique, des effectifs armés, un territoire, une population, et qui sont dans des rapports plus ou moins compliqués avec le gouvernement civil et les forces militaires birmanes. Ce sont des groupes ethniques qui appartiennent à des ethnies Kachin, Mon, Karen. Et certains sont dans une logique de rapprochement, de compréhension générale avec le pouvoir. On a 8 groupes ethniques armés aujourd'hui sur 21 qui ont déjà signé en octobre de l'année dernière ce qu'on appelle un accord national de cessez-le-feu. Ça en laisse 13 qui n'ont pas encore paraffé ce document. Et aujourd'hui, enfin demain, pardon, dans ces prochains jours, nous avons 18 des 21 groupes ethniques que nous évoquons à l'instant qui seront présents. Alors tous ne seront pas là uniquement pour défendre leurs revendications, mais ils sont sur la carte, ils sont autour de la table, au même titre que des diplomates, au même titre que des représentants étrangers, au même titre que les partis politiques, la société civile. C'est une grande messe d'à peu près 2000 personnes qui va essayer de concilier la volonté de réconciliation nationale avec les nécessités et les carences du moment en Birmanie. C'est un exercice qui est compliqué. En tous les cas, une grande majorité, une majorité assez forte de ces groupes ethniques armés, lorsque vous discutez avec les représentants civils ou militaires, ne se font pas énormément d'illusions sur l'issue immédiate de cette grande messe. C'est plutôt dans l'espoir que les choses se passent bien dans cette grande messe et dans ce premier pas qu'elles entendent, d'ici 6 mois, 1 an et 18 mois, aller un petit peu plus loin dans la résolution politique sur le terrain, et ça sera fort compliqué, de ce différent vieux depuis la fin des années 40.
Justement, vous l'avez mis en avant, les différents groupes présents sur place sont nombreux. Peut-on parler de revendications communes ou au contraire d'oppositions très marquées quant aux objectifs voulus?
Tous les groupes ethniques armés ne sont pas dans un même niveau donc, de puissance, d'importance, de revendication. Ce qui fait une trame relativement commune, c'est que ces groupes ethniques armés représentent donc des ethnies différentes. La Birmanie, en fait, est une Birmanie à deux vitesses. Une Birmanie qui est concentrée autour d'un groupe ethnique majoritaire, ce sont les Bamars, les Birmans, et un tiers de la population, représentant quand il est entre plusieurs dizaines de groupes ethniques. Certains ont donc des mouvements armés, on les évoque un instant, Et certains, une fois encore, sont dans une logique de discussion relativement bien avancée avec le pouvoir, civil et militaire. D'autres sont dans une logique encore d'affrontement sur le terrain. C'est le cas des Kachins, c'est le cas de divers groupes ethniques armés Shan, qui sont aujourd'hui encore, ce matin, donc à croiser le fer, les obus et la mitraille avec les troupes régulières. Donc certains veulent une logique de réconciliation nationale, mais de reconnaissance. Nombre de groupes ethniques armés estiment qu'ils sont considérés comme les populations qu'ils représentent, comme des citoyens de seconde classe. Ils aimeraient qu'il y ait à l'avenir, dans une logique non plus centrale mais fédérale, plus fédérale qu'elle ne l'est encore aujourd'hui, une meilleure prise en compte des spécificités culturelles, linguistiques, économiques et un accès aux ressources plus partagé. Et elles aimeraient, pour certaines d'entre elles, que le gouvernement les reconnaisse comme elles sont, qu'elles les intègrent ou pas dans les forces armées régulières demain et qu'elles leur laisse un degré d'autonomie qui serait en phase avec leur attente citoyenne locale. Toutes ne seront pas évidemment évoquées, moins encore réglées à l'issue de cette conférence. Et parmi certains groupes, une fois encore, on en a certains qui sont dans une capacité de force et d'influence nette vis-à-vis du gouvernement. On pense notamment à l'ethnie Wa, qui représente une force de 30 000 hommes bien soutenue par équipée et entraînée par la Chine, donc c'est un poids fort. Face à cela, nous avons deux ou trois autres petits groupes ethniques armés qui représentent maximum quelques centaines d'individus au poids beaucoup moins fort. Ces groupes-ci ont des attentes et une capacité de levier sur l'État qui est évidemment moindre. Donc les intérêts sont vers le fédéralisme et vers la reconnaissance des spécificités locales et un accès partage aux ressources. Et d'une manière plus générale, essayer d'être réintégré dans une société à un niveau égalitaire qui leur fait défaut depuis des décennies et des décennies.
Comme justement vous l'avez dit, les intérêts se tournent vers le fédéralisme. Est-ce que la constitution d'un État fédéral pourrait-il être problématique ?
Et vous avez dans ce pays qui a donc une histoire mouvementée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des partisans du fédéralisme dont on trouve une majorité auprès des populations ethniques et vous avez de grands résistants au fédéralisme. On évoquera certains partis politiques qui représentent la majorité de la population. On évoquera aussi surtout, et peut-être que c'est là certainement même que le bât blesse, l'armée n'est pas véritablement une partisane acharnée de cette thèse ou de cette vision fédérale de la Birmanie, et on peut s'attendre dans une grande mesure à ce que l'armée, sauf à ce qu'elle y trouve soudain un avantage de moyen ou de long terme relativement évident, on peut s'attendre à ce que cette puissante institution militaire, qui comporte encore aujourd'hui quelques 500 000 hommes, prenne les pieds et ne fasse pas montre de la meilleure des volontés pour orienter la Birmanie, alors que c'est le souhait d'une partie quand même relativement importante de la population, à commencer par le gouvernement actuel, donc la ligne Aung San Suu Kyi, escompte mettre en place, à court ou moyen terme, une dimension fédérale dans ce pays qui y aspire d'une certaine manière depuis les années 40.
On sait que Ban Ki-moon sera présent à cette conférence de Panglong. Que cherche Aung San Suu Kyi en invitant sur place des ex-membres ou des membres actuels de l'ONU ?
Il y a certainement plusieurs raisons à tout cela. Donc déjà, ça donne une dimension non plus nationale, mais internationale à l'événement. Lorsque l'on invite des observateurs aussi prestigieux que le secrétaire général de l'ONU et une ribambelle assez incroyable de diplomates occidentaux, asiatiques ou autres, on donne une résonance et un poids majeur à l'événement. Et ça permet également peut-être aussi de peser sur certains acteurs que l'on va noter comme un peu résistants à cette logique de dialogue et de réconciliation nationale. On pense, une fois encore ici, sans lui jeter uniquement de l'eau chaude à l'armée. Ça place certainement ces acteurs-ci et d'autres, les gens relativement moins bien selon les règles ou les meilleures pratiques, devant un niveau de responsabilité et d'engagement compliqué. Et puis, avoir des personnalités aussi importantes médiatise dans une grande mesure cet événement, l'internationalise et lui donne une résonance particulière. Ça permet certainement de donner une profondeur et un apparat à l'événement au-delà d'un contour strictement birmano-birman.